Ces mages ont une grande importance dans la foi chrétienne. D'abord, il y a une histoire importante dans la Bible qui est longue. Au début de l'évangile de Matthieu, on leur attribue une place considérable dans le nombre de versets qu'on leur consacre. Ensuite, cette histoire est quand même la première chose que l'on dit du Christ né dans l'évangile de Matthieu, donc il y a là certainement une information importante. Et puis la tradition chrétienne a continué à donner une grande importance aux mages jusqu'à leur attribuer un jour de fête particulier, donc ce dimanche de l'Épiphanie. Et tous les personnages de la Bible qui rencontrent Jésus n'ont pas droit à un jour de fête particulier pour eux tout seuls. Et donc ces mages ont quelque chose d'absolument essentiel, fondamental dans la foi chrétienne, dans la piété chrétienne. Mais voilà la chose curieuse et vraiment étrange quand on regarde ce texte de près, c'est que ces mages apparaissent au début de l'évangile, ils adorent le Christ, mais ensuite ils rentrent chez eux, ils repartent et on n'entend plus jamais parler d'eux dans l'ensemble de l'évangile. Ils disparaissent du tableau, ils s'évaporent et ne reviennent jamais. Et ça, c'est assez étrange. C'est décevant, parce qu'on aurait voulu trouver dans ces mages un exemple de piété, et on aurait voulu que ces mages qui ont ce mérite extraordinaire de découvrir le Fils de Dieu, d'aller l'adorer, de lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qu'ils restent fidèles au Christ et qu'ils le suivent sur ses chemins, qu'ils soient là jusqu'au pied de la croix pour l'adorer. Mais pas du tout. Les mages adorent Jésus, font trois petits tours et puis s'en vont. Ils rentrent chez eux et ne reviennent, ne remettent plus jamais les pieds en Palestine, en Israël ou à côté du Christ. Alors avouez que c'est quand même une drôle d'image, un drôle d'exemple de fidélité et de piété que ces gens qui adorent le Christ et qui ensuite s'évaporent et disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Évidemment, cela n'a pas échappé à la tradition chrétienne, qui a tout fait pour essayer de se les garder sous la main, en quelque sorte. Alors, je vous l'ai dit, on leur a donné un jour de fête pour essayer de se rappeler que ces mages ont été fidèles et de les rendre encore présents dans la vie du Christ. Et puis, on va en ajouter encore. La tradition va dire qu'ils étaient rois, c'est-à-dire qu'on va leur donner encore plus d'ampleur. On va leur donner leur nom, ce que la Bible ne disait pas. On va les appeler Gaspard, Melchior et Balthazar. On va leur donner un nombre, 3, ce que ne dit pas non plus l'Évangile. On va essayer de dire qu'ils représentaient toutes les races, qu'avaient un jaune, un blanc, un noir. Enfin bref, on trouve des tas de choses importantes. On rend ce jour de l'Épiphanie particulièrement important. Et même, d'ailleurs, la tradition chrétienne médiévale est allée encore plus loin, puisque certains ont dit qu'ils sont même allés jusqu'à la croix. Il y a des contes qui disent qu'un des mages arrive au moment de la croix, enfin, il y en a quand même un qui serait arrivé. Et au Moyen-Âge, on en a fait, comme en Allemagne, des évêques et des martyrs. Et il y a même à Cologne, je crois, dans la cathédrale de Cologne, une chasse où l'on a mis les prétendus restes des rois mages que les fidèles peuvent vénérer et adorer pour faire un culte à ces rois mages qui seraient devenus donc des exemples de piété. Alors on a voulu en faire donc des exemples de piété, de conversion, d'adoration du Christ. On a voulu trouver en eux l'exemple même de ceux qui viennent de loin, qui découvrent le Christ, qui lui donnent tout et qui l'adorent. Mais il faut le dire, si l'on s'en tient au texte biblique, leur exemple n'est pas brillant, en fin de compte. Alors que faire? Est-ce qu'il faut, comme l'a fait la tradition chrétienne, boucher les trous? Essayer d'imaginer qu'en fait, mais si, ils sont quand même revenus et ils sont restés fidèles? Ou est-ce qu'il faut s'en tenir au texte biblique? Eh bien, en tant que bon protestant, l'Écriture seule me fait croire qu'il faut s'en tenir au texte biblique et essayer d'écouter ce que nous dit le texte biblique, même si ce n'est pas ce que j'aurais eu naturellement tendance à prêcher. Et donc, regardons les choses comme elles sont. Les mages sont des gens venus de loin, des gens venus d'on ne sait où, qui ont reconnu le Messie, qui l'ont adoré, et puis qui sont repartis chez eux. C'est-à-dire accepter que les mages disparaissent bel et bien de l'histoire du Christ. Alors, qu'en dire ? Eh bien, d'abord, voir les choses en face. Les mages, évidemment, n'étaient pas des bons chrétiens tout à fait comme il faut. Ils étaient astrologues. L'astrologie est très mal vue dans la Bible, donc ce n'est pas bien du tout. Et ils découvrent Jésus d'une façon très douteuse par l'astrologie, vraiment, ce n'est pas un bon exemple. Donc ces mages étaient astrologues, ils étaient idolâtres. Ce qui est vrai, c'est qu'ils se donnent beaucoup de mal pour trouver Jésus, qu'ils sont très heureux de le voir, qu'ils se prosternent et qu'ils lui offrent leur trésor, mais ensuite qu'ils rentrent chez eux et qu'ils disparaissent, je vous ai dit, du tableau. Alors, qu'en tirer ? D'abord, ça me rend plus tolérant à l'égard d'une catégorie de gens que je rencontre nécessairement fréquemment dans mon ministère et que vous pouvez aussi certainement identifier. Ce sont ceux que l'on gérait, tous ces gens qui font des démarches vis-à-vis de l'Église, qui viennent d'on ne sait où, et qui arrivent à l'Église et qui pendant un temps sont extrêmement fidèles, parfois même demandent à être baptisés adultes, et qui ensuite s'évaporent et disparaissent. On a ça, on connaît ça. Et je sais même que c'est le cas même de gens qui demandent le baptême en tant qu'adultes. On pourrait penser qu'ils deviendraient ensuite des gens fidèles. Or, nous savons dans nos églises que finalement, même chez ceux qui demandent à être baptisés adultes, il y a un taux considérable de gens qui finalement, après un moment de passage à l'église, sont très fidèles pendant un certain temps, un mois, un an, deux ans, trois ans, et ensuite disparaissent totalement et on ne les voit plus. Et ça, est-ce que c'est un problème ? Eh bien, on a pu considérer que c'en était un, et l'histoire des mages me fait penser que ça n'est pas un problème, et qu'après tout, chacun a son propre chemin, et que justement, il faut être un peu plus ouvert, je dirais, que ce que nous voudrions être, sur le chemin de chacun, et qu'après tout, que certains passent un temps à l'église et ensuite s'en détachent, n'est pas forcément un problème. Après tout, chacun fait son chemin, et si ce temps passé à l'église a été pour eux un temps positif, eh bien, c'est parfait. Chacun a son chemin, les mages aussi ont disparu de la circulation, mais on ne considère pas que l'expérience des mages a été un échec. On considère au contraire qu'ils ont été exemplaires, et il n'y a donc pas de trahison ni de manqué dans cette histoire. Cela nous montre qu'il y a... cela nous montre plutôt comment nous pouvons considérer la façon d'appartenir à l'Église. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs manières d'appartenir à l'Église. Et que l'idéal que nous présentons en disant l'idéal, c'est d'être un paroissien 100% à l'Église depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et si possible même de génération en génération, n'est pas nécessairement le seul modèle du bon paroissien, entre guillemets. Ces histoires des mages nous forcent, je crois même, à changer notre idée de ce qu'est un bon paroissien. Le bon paroissien n'est pas forcément celui qui reste collé à l'Église toute sa vie 100%, mais ce peut être celui qui, comme les mages, y fait un passage. Et tout simplement, parce que le christianisme n'est pas une secte, on peut entrer et sortir. Le christianisme n'est pas une... Il n'y a pas de nécessité morale de rester attaché à l'Église, d'être toute sa vie un pratiquant important. On est libre et on peut très bien faire un bout de chemin avec l'Église et sans forcément y passer toute sa vie. Et ce bout de chemin peut tout à fait être positif au cours d'une existence. Et donc il n'y a aucune obligation, je dirais religieuse ou morale, à être fidèle dans la durée à l'égard de l'Église. Bien sûr, en tant que pasteur, je préfère que mes paroissiens restent fidèles longtemps, et je pense que c'est une bonne chose, mais je crois qu'il faut élargir sa vision des choses et se dire que l'Église peut aussi être un lieu où l'on passe, finalement, d'une façon positive, comme les mages l'ont fait. Et je crois d'ailleurs que les mages, non seulement leur passage n'a pas été un échec, mais ça a été quelque chose d'extrêmement positif pour eux. Je crois que ça a été important et que ce n'est pas un pis-aller, je dirais, que ce passage des mages auprès du Christ, ça a même été quelque chose de bien, autrement dit. Et donc on peut en plus comprendre autrement ce qu'est notre façon de vivre avec le Christ. Parce que, sans forcément assimiler l'Église avec le Christ, si on reprend le Christ lui-même, cette histoire des mages qui viennent de loin, qui vont vers le Christ et qui reviennent chez eux, nous montre que je crois que ce n'est pas simplement une façon dégradée d'être chrétien qu'il faudrait accepter, c'est-à-dire, bon, ils ont été chrétiens à un moment, ça aurait été mieux qu'ils restent, mais ce n'est pas grave. C'est même l'exemple même de ce que nous sommes invités à faire à l'égard du Christ. C'est-à-dire que il n'est pas certain qu'il nous soit demandé de rester sans arrêt au chevet du Christ et de quitter ce que nous sommes, de ne plus être dans notre vie normale pour nous déraciner et être sans arrêt contre le Christ. Le but de la vie chrétienne, je ne crois pas que ce soit de sortir du monde, de quitter sa vie, mais c'est à partir de là où l'on est, de faire des mouvements de va-et-vient vers le Christ, et ensuite de revenir là où l'on était au départ, un peu changé et transformé, comme les mages dont on nous dit qu'ils reviennent chez eux par un autre chemin, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Et donc la vie chrétienne, ce n'est pas de se dire « je dois abandonner tout ce que je suis, je dois abandonner mon travail, mes habitudes, ma façon d'être, ma culture, pour être collé jour et nuit au Christ et ne penser qu'au Christ », mais c'est de temps en temps d'aller visiter le Christ, de sortir de chez soi pour aller visiter le Christ, et ensuite de revenir chez soi, là où l'on est, dans sa vie matérielle et profane, même si, d'une certaine façon, on en revient un peu différent et changé. Autrement dit, le but, l'idéal du chrétien, ce n'est pas le moine du monastère, voyez-vous, mais c'est le laïc qui vit dans le monde et qui ne donne pas toute sa vie au Christ, mais qui va de temps en temps visiter le Christ et qui revient chez lui. Le but du chrétien, ce n'est pas le religieux, je vous disais, mais c'est le laïc, c'est la mère de famille, c'est le père de famille, c'est le travailleur, là où il est, et qui, de là où il est, va visiter, va voir le Christ, il lui offre quelque chose et il en repart chez lui transformé. Et je crois que ça, c'est très important parce que des siècles de christianisme tentent de nous présenter la vie, je dirais, du chrétien normal et laïque comme une sorte de vie dégradée de la vie religieuse. Et comme si l'idéal religieux, c'était effectivement le moine qui, lui, donne toute sa vie au Christ et qui cesse de vivre dans le monde. Cet exemple des mages doit nous montrer qu'on nous ne demande pas de ne pas revenir chez nous, mais qu'au contraire, on peut revenir chez nous, et que l'on vient avec son histoire et sa culture, et qu'on visite le Christ, on est changé, et qu'on revient dans son histoire et dans sa culture. Et je pense que d'ailleurs, cet exemple des mages, qui sont un passage pour un temps, qui s'arrêtent, qui adorent le Christ et qui partent sans laisser de traces, n'est pas là que pour évoquer ceux qui font un bout de chemin avec l'Église, mais qu'en fait c'est bien notre propre vie spirituelle à nous et la façon avec laquelle nous vivons. Parce que nous sommes tous dans notre monde, en fait. Nous avons nos préoccupations, nos soucis, notre métier, notre mode de vie, qui n'est pas toujours très chrétien, il faut bien le dire. Mais on peut aller voir le Christ comme ça, comme on est, comme les mages vont voir le Christ comme ils sont, avec leurs croyances, avec leurs coutumes, et comme on le montre même dans les histoires pour enfants, avec leurs habits, leur culture, toute leur suite, etc. Et donc oui, nous pouvons aller vers le Christ comme nous sommes. Ça, c'est la première belle leçon. Et je regrette que MacDonald ait pris cette formule que je trouve qu'on aurait dû appliquer à l'Église. « Venez comme vous êtes ». Eh bien, je trouve que justement, le message des mages, c'est ça. C'est « Venez comme vous êtes ». Il n'y a pas besoin de faire semblant d'être autre chose que ce que l'on est pour aller vers le Christ. Et on peut y aller comme on est. Voilà. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai, plus maintenant, mais dans mes débuts ici, dans une paroisse un peu très conventionnelle, j'ai beaucoup lutté contre certaines vieilles paroissiennes qui faisaient des remarques aux jeunes qui arrivaient débraillés ou en sandales ou mal habillés et qui disaient « quand même, c'est honteux, vous venez à l'église, vous pourriez au moins faire quelque chose ». Et je leur disais « non, venez comme vous êtes ». Voilà. C'est vrai pour le vêtement, mais c'est vrai pour tout le reste. Il n'y a pas à avoir peur d'aller vers le Christ, on vient comme on est, et on vient avec ses croyances, avec ses faiblesses, avec ses superstitions, avec sa foi ou sa non-foi, avec ses doutes, venez comme vous êtes, voilà. Et ça, c'est ce message des mages, et cette ouverture d'esprit incroyable de l'Évangile qui nous présente des astrologues qui viennent adorer le Christ. Et à aucun moment, on ne leur demande de renoncer à leur astrologie. Bon, c'est vrai, quand ils reviennent, il y a moins d'étoiles que quand ils viennent. Donc, il y a eu un changement, mais en tout cas, à aucun moment, on ne les culpabilise sur ce qu'ils sont. Donc, c'est ça, tout le monde est bienvenu et Dieu nous accueille comme nous sommes. Quelle que soit notre race, quelle que soit notre façon de nous habiller, quel que soit notre métier, quelle que soit notre dignité, notre indignité, quel que soit notre état, je dirais, de pécheur ou pas dans l'Église, que nous soyons mariés, divorcés, homosexuels ou ce que vous voulez, nous avons accès au Christ, et nous avons accès à l'Église, et nous avons accès à tous les sacrements. Ça, c'est le message des mages. Sinon, nous ne sommes plus, je crois, dans l'idéal de l'Évangile qui accueille ceux qui sont comme ils sont, et auxquels on donne le droit de pouvoir adorer le Christ et de donner ce qu'ils ont au Christ. Et le Christ lui-même n'a rejeté personne d'ailleurs, ni les péagers, ni ceux qui collaboraient avec les Romains, ni les prostituées, ni les pharisiens même, pourtant il ne les aimait pas. Quand les pharisiens venaient à lui, l'invitaient à dîner, il allait dîner chez les pharisiens. Et donc, en tant que serviteur du Christ, nous invitons à la table du Seigneur les pharisiens, les prostituées, les péagers et tous ceux qui se considéreraient normalement comme indignes de l'Église. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'important dans ce message des mages. Et le but, c'est de faire dans notre vie une petite visite au Christ. Voilà. Et c'est ça qu'on nous demande. On ne nous demande pas forcément de mettre toute notre vie au service du Christ, mais de faire un cheminement pour aller faire une visite au Christ, de sortir de chez soi et d'aller vers l'écoute de l'Évangile, de lire un passage de la Bible. Je sors de chez moi, de ma télévision, de mon ordinateur, de mes habitudes, et je me dépayse en allant rencontrer le Christ dans les textes de l'Évangile. Ou de faire une petite prière en passant dans ma vie quotidienne, dans l'agitation de ma journée. À un moment donné, je sors de cela et je rencontre le Christ par une prière. Ou je viens au culte, je sors de chez moi dans ma semaine et une heure, je donne quelque chose au culte pour Dieu. Et chacun vient avec sa propre histoire et se pose là devant le Christ et ensuite repart chez lui. Eh bien, c'est très bien, c'est comme ça que ça se passe. Et je vous l'ai dit, le texte nous dit que les mages rentrent chez eux par un autre chemin, c'est-à-dire qu'ils rentrent, mais différemment, c'est-à-dire que la rencontre avec le Christ les a un petit peu transformés, et c'est tant mieux. Donc, ils ont fait un bout de chemin avec le Christ, et c'est déjà très bien, c'est déjà pas si mal, parce que je crois que leur vie ne sera plus jamais la même, en quelque sorte. Et donc, pour ce qui est de ceux dont je parlais au départ, qui ont fait un bout de chemin avec l'Église et qui disparaissent, Je me dis, ben, après tout, je ne sais pas où ils sont allés, mais ils sont rentrés en Orient, chez eux. Mais je pense qu'ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Et notre devoir à nous, en tant que responsables de l'Église, c'est de faire en sorte que leur passage à l'Église reste pour eux un bon souvenir. C'est-à-dire que ce passage à l'Église reste pour eux l'image de quelque chose de fraternel, de positif, d'ouvert, et qu'ils n'en partent pas en ayant l'impression d'être enfin libérés d'un carcan idéologique ou moral pesant. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et que ceux qui partent de l'Église, parce qu'ils ont fait un bout de chemin, et c'est très bien, eh bien, en partent sans culpabilité, mais au contraire avec reconnaissance, en se disant qu'il y a eu effectivement quelque chose de changé. Et pour nous qui passons notre temps à aller à l'Église, à revenir et à repartir, donc nous jouons au mage toutes les semaines ou tous les jours, finalement, eh bien, la chose est la même. On revient chez soi après le culte, c'est vrai, après sa prière, on retombe certainement dans ses soucis, dans sa vie, dans son quotidien, et on fait les mêmes choses, les mêmes gestes, mais peut-être un peu différemment. Et peut-être que ce travail que nous faisons de rencontrer le Christ nous ouvre d'autres chemins. Et puis enfin, je dirais que ceux qui sont passés comme ça par le Christ, soit qui sont passés une fois et qui n'y reviennent plus, soit qui y passent régulièrement comme certains d'entre nous, eh bien, ils ont en plus été utiles parce qu'ils ont offert quelque chose au Christ. Et en effet, pendant des années, moi j'ai toujours lu ces trois cadeaux des mages au Christ comme étant des exemples de générosité. Et je me suis dit, c'est bien, ils ont su offrir quelque chose. Mais en fait, on peut le voir autrement, en disant, le Christ a reçu de ces mages qui sont venus. C'est-à-dire que ça a aussi été une chance pour le Christ que ces mages soient venus le voir, parce qu'ils lui ont donné de l'or. Eh bien, c'est déjà pas mal, et on nous dit que Jésus était pauvre, il ne devait pas être si pauvre que ça, puisqu'il avait l'or des mages, et puis il lui a donné de l'encens, il a donné de la myrrhe, donc ce petit Jésus, il a reçu des choses de ces gens qui sont venus. Et ça, je crois que nous pouvons aussi être reconnaissants de ceux qui viennent à l'Église, parce que tant qu'ils sont là, ils donnent. Alors ils donnent matériellement, certainement parce que ça, l'Église, elle vit de ceux qui en font partie et de ceux qui viennent et qui donnent quelque chose, mais ils donnent aussi par l'encens de leur prière, et que ceux qui sont là, même si c'est pour un temps, participent à la vie de l'Église par leur prière qui monte à Dieu comme un encens, et ce n'est pas à nous de savoir si ça doit durer longtemps ou pas. Ceux qui sont là donnent, et quiconque vient donne à l'Église et donne au Christ, je dirais, une présence matérielle, humaine, par une consistance concrète, je dirais, par l'encens de la prière et même par la myrrhe, qui est, nous dit-on, ce qui servait à embaumer les corps, et qui donc, finalement, ceux qui sont là, eh bien, donnent consistance au corps du Christ ressuscité, parce que c'est nous le corps du Christ ressuscité, et c'est ceux qui sont là. Donc un jour on est dedans, le lendemain on n'y est pas, mais un autre y est. Et en tout cas, ceux qui y est, pendant qu'ils y sont, ils donnent au Christ. Et autrement dit, il n'y a pas besoin d'être 100% pratiquant pour être utile à l'Église. Et on ne peut pas dire l'Église, ce ne sont que ceux qui sont là tous les dimanches depuis 50 ans. L'Église, ce sont ceux qui sont là aujourd'hui. Et où ils seront demain et où ils étaient hier n'est pas la question. L'Église, ce sont ceux qui sont là, et même en n'étant pas 100% pratiquant, et même si on y est une fois tous les ans, ou tous les 10 ans, ou tous les 100 ans, eh bien, la fois où on y est, on donne à l'Église, et on participe à ce qu'est l'Église, et on peut être précieux à l'Église en lui apportant quelque chose d'essentiel et de fondamental. Et puis les mages repartent, moins riches matériellement, c'est vrai, mais je crois riches d'une rencontre, d'un cheminement qui a été fait, et ça va changer leur façon de marcher dans la vie, et ça va leur permettre de revisiter leur propre existence. Et donc je trouve dans ce message des mages une vraie bonne nouvelle, qui nous déculpabilise de notre manière d'être chrétien. si les mages peuvent être montrés comme des exemples même de l'accueil du Christ, eh bien je pense qu'il y a de la place pour moi. Parce que moi, je ne viens pas une seule fois dans ma vie voir le Christ, donc je suis plutôt mieux que les mages. Et puis, je ne suis pas astrologue, donc je suis moins idolâtre qu'eux. Et ça veut dire que ces mages ne doivent déculpabiliser tous ceux qui, dans l'Église, ne font que passer, ou déculpabiliser tous ceux qui même ne sont pas forcément des chrétiens à plein temps, je dirais 100% pratiquants. Mais les mages nous montrent qu'il y a simplement que tous sont bienvenus et que même les passants sont bienvenus, et qu'il y a là une bonne nouvelle pour les voyageurs, pour ceux qui découvrent, et que la seule chose essentielle, c'est de se mettre en marche, d'ouvrir ses yeux, de chercher, d'observer, de quêter, d'être en route, d'avancer et de vouloir trouver quelque chose. Et dans ce cheminement qui est celui des mages, qu'il soit long ou court, qu'il soit une fois dans sa vie ou que nous sachions le répéter régulièrement, dans toujours ce cheminement, dès qu'on marche avec sincérité vers le Christ et qu'on découvre même un petit enfant Jésus, eh bien il y a quelque chose en nous, quelque chose dans cette découverte qui nous illumine d'une grande joie, qui fait de nous des rois et qui nous permet de revenir chez nous par un autre chemin, qui est un chemin de vie, d'espérance, de paix et d'éternité. Amen.